Emmanuel Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, traduit de l'allemand en français par Victor Delbos, 1862-1916, à partir de l'édition de 1792. Table des matières. Préface d'Emmanuel Kant. Première section. Passage de la connaissance rationnelle commune de la moralité à la connaissance philosophique. Deuxième section. Passage de la philosophie morale populaire à la métaphysique des mœurs. L'autonomie de la volonté comme principe suprême de la moralité. L'hétéronomie de la volonté comme source de tous les principes illégitimes de la moralité. Classification de tous les principes de la moralité qui peuvent résulter du concept fondamental de l'hétéronomie tel que nous l'avons défini. Troisième section. Passage de la métaphysique des mœurs à la critique de la raison pure pratique. Le concept de la liberté est la clé de l'explication de l'autonomie de la volonté. La liberté doit être supposée comme propriété de la volonté de tous les êtres raisonnables. De l'intérêt qui s'attache aux idées de la moralité. Comment un impératif catégorique est-il possible? De la limite extrême de toute philosophie pratique. Remarque finale. Préface. L'ancienne philosophie grecque se divisait en trois sciences, la physique, l'éthique et la logique. Cette division est parfaitement conforme à la nature des choses et l'on n'a guère d'autre perfectionnement à y apporter que celui qui consiste à y ajouter le principe sur lequel elle se fonde, afin que de cette façon, on s'assure d'une part qu'elle est complète, que d'autre part, l'on puisse déterminer exactement les subdivisions nécessaires. Toute connaissance rationnelle, ou bien est matérielle et se rapporte à quelque objet, ou bien est formelle et ne s'occupe que de la forme de l'entendement et de la raison en eux-mêmes, et des règles universelles de la pensée en général, sans exception d'objet. La philosophie formelle s'appelle logique, tandis que la philosophie matérielle, celle qui a affaire à des objets déterminés et aux lois auxquelles ils sont soumis, se divise à son tour en deux, car ces lois sont ou des lois de la nature ou des lois de la liberté. La science de la première s'appelle physique, celle de la seconde s'appelle éthique. Celle-là est encore nommée philosophie naturelle. Celle-ci, philosophie morale. La logique ne peut avoir de partie empirique, c'est-à-dire de partie où les lois universelles et nécessaires de la pensée s'appuieraient sur des principes qui seraient tirés de l'expérience. Car autrement dit, elle ne serait pas une logique, c'est-à-dire un canon pour l'entendement, et la raison qui vaut pour toute pensée, et qui doit être démontré. Au contraire, la philosophie naturelle, aussi bien que la philosophie morale, peuvent avoir chacune sa partie empirique, car il faut qu'elles assignent leurs lois, l'une à la nature en tant qu'objet d'expérience, l'autre à la volonté de l'homme en tant qu'elle est affectée par la nature. Loi, dans le premier cas, d'après lesquelles tout arrive, dans le second cas, d'après lesquels tout doit arriver, mais en tenant compte pourtant encore des conditions qui font que souvent ce qui doit arriver n'arrive point. On peut appeler empirique toute philosophie qui s'appuie sur des principes de l'expérience. Pure, au contraire, celle qui expose ses doctrines en partant uniquement de principes a priori. Celle-ci, lorsqu'elle est simplement formelle, se nomme logique. mais si elle est restreinte à des objets déterminés de l'entendement, elle se nomme métaphysique. De la sorte, naît l'idée d'une double métaphysique, une métaphysique de la nature et une métaphysique des mœurs. La physique aura ainsi, outre sa partie empirique, une partie rationnelle. De même, l'éthique. Cependant, ici, la partie empirique pourrait recevoir particulièrement le nom d'anthropologie pratique, la partie rationnelle proprement celui de morale. Toutes les industries, tous les métiers et tous les arts ont gagné à la division du travail. La raison en est qu'alors, ce n'est pas un seul qui fait tout, mais que chacun se borne à une certaine tâche, qui, par son mode d'exécution, se distingue sensiblement des autres, afin de pouvoir s'en acquitter avec la plus grande perfection possible et avec plus d'aisance. Là où les travaux ne sont pas ainsi distingués et divisés, où chacun est un artiste à tout faire, les industries restent encore dans la plus grande barbarie. Or, ce serait sans doute un objet qui en lui-même ne serait pas indigne d'examen que de se demander si la philosophie pure n'exige pas dans toutes ses parties un homme spécial qui soit à elle, et si pour l'ensemble de cette industrie qui est la science, il ne vaudrait pas mieux que ceux qui sont habitués à débiter conformément au goût du public, l'empirique mêlé au rationnel, en toutes sortes de proportions qu'eux-mêmes ne connaissent pas, qui se qualifient eux-mêmes de vrais penseurs, tandis qu'ils traitent de songes creux ceux qui travaillent à la partie purement rationnelle, que ceux-là, dis-je, fussent avertis de ne pas mener de front deux occupations qui demandent à être conduites de façon tout à fait différente, dont chacune exige peut-être un talent particulier et dont la réunion en une personne ne fait que des gâcheurs d'ouvrage. Néanmoins, je me borne ici à demander si la nature de la science ne requiert pas qu'on sépare toujours soigneusement la partie empirique de la partie rationnelle, qu'on fasse précéder la physique proprement dite empirique d'une métaphysique de la nature. D'autre part, l'anthropologie pratique d'une métaphysique des mœurs qui devraient être soigneusement expurgées l'une et l'autre de tout élément empirique. Cela, afin de savoir tout ce que la raison pure peut faire dans les deux cas, et à quelle source elle puisait elle-même cet enseignement a priori qui est le sien. Que d'ailleurs, cette dernière tâche soit entreprise par tous les moralistes dont le nom est légion, ou seulement par quelques-uns qui s'y sentent appelés. Comme mes vues portent ici proprement sur la philosophie morale, je limite à ces termes stricts la question posée. Ne pense-t-on pas qu'il soit de la plus extrême nécessité d'élaborer une bonne fois une philosophie morale pure, qui serait complètement expurgée de tout ce qui ne peut être qu'empirique et qui appartient à l'anthropologie. Car, qu'il doive y avoir une telle philosophie, cela résulte en toute évidence de l'idée commune du devoir et des lois morales. Tout le monde doit convenir que pour avoir une valeur morale, c'est-à-dire pour fonder une obligation, il faut qu'une loi implique en elle une absolue nécessité, qu'il faut que ce commandement « Tu ne dois pas mentir » ne se trouve pas valable pour les hommes seulement en laissant à d'autres êtres raisonnables la faculté de n'en tenir aucun compte, et qu'il en est de même de toutes les autres lois morales proprement dites. Que par conséquent, le principe de l'obligation ne doit pas être ici cherché dans la nature de l'homme, ni dans les circonstances où il est placé en ce monde, mais, a priori, dans les seuls concepts de la raison pure, et que toute autre prescription qui se fonde sur des principes de la simple expérience, fût-elle à certains égards une prescription universelle, du moment que pour la moindre part, peut-être seulement par un mobile, elle s'appuie sur des raisons empiriques, si elle peut être appelée une règle pratique, ne peut jamais être dite une loi morale. Ainsi, non seulement les lois morales, y compris leurs principes, se distinguent essentiellement dans toute connaissance pratique de tout ce qui renferme quelque chose d'empirique. Mais encore, toute philosophie morale repose entièrement sur sa partie pure et appliquée à l'homme. Elle ne fait pas le moindre emprunt à la connaissance de ce qu'il est, anthropologie. Elle lui donne, au contraire, en tant qu'il est un être raisonnable, des lois a priori. Il est vrai que ces lois exigent encore une faculté de juger aiguisée par l'expérience, afin de discerner d'un côté dans quel cas elles sont applicables, afin de leur procurer d'autre part un accès dans la volonté humaine et une influence pour la pratique. Car l'homme, affecté qu'il est en lui-même par tant d'inclinations, est bien capable sans doute de concevoir l'idée d'une raison pure pratique, mais n'a pas si aisément le pouvoir de la rendre efficace in concreto dans sa conduite. Une métaphysique des mœurs est donc rigoureusement nécessaire, non pas seulement à cause d'un besoin de la spéculation afin d'explorer la source des principes pratiques qui sont a priori dans notre raison, mais parce que la moralité elle-même reste exposée à toutes sortes de corruptions, aussi longtemps que manque ce fil conducteur et cette règle suprême qui permettent de l'apprécier exactement. Car, lorsqu'il s'agit de ce qui doit être moralement bon, ce n'est pas assez qu'il y ait conformité à la loi morale. Il faut encore que ce soit pour la loi morale que la chose se fasse. Sinon, cette conformité n'est que très accidentelle et très incertaine, parce que le principe qui est étranger à la morale produira sans doute de temps à autre ses actions conformes, mais souvent aussi des actions contraires à la loi. Or, la loi morale dans sa pureté et dans sa vérité, ce qui précisément en matière pratique est le plus important, ne doit pas être cherchée ailleurs que dans une philosophie pure. Aussi faut-il que celle-ci, la métaphysique, vienne en premier lieu. Sans elle, il ne peut y avoir, en aucune façon, de philosophie morale. Je dirais même que celle qui mêle ces principes purs avec les principes empiriques ne mérite pas le nom de philosophie, car la philosophie se distingue précisément de la connaissance rationnelle commune en ce qu'elle expose, dans une science à part, ce que cette connaissance commune ne saisit que mélangée. Elle mérite bien moins encore le nom de philosophie morale, puisque justement, par cet amalgame, elle porte atteinte à la pureté de la morale elle-même et qu'elle va contre sa propre destination. Qu'on n'aille pas croire, cependant, que ce qui est réclamé ici, on l'est déjà dans la propédeutique que l'illustre Wolff a mise en tête de sa philosophie morale. Je veux dire, dans ce qu'il a appelé « philosophie pratique universelle » et qu'ici, par suite, il n'y ait pas précisément un champ entièrement nouveau à fouiller. Justement, parce qu'elle devait être une philosophie pratique universelle, ce qu'elle a considéré, ce n'a pas été une volonté de quelque espèce particulière, comme une volonté qui serait déterminée sans mobiles empiriques d'aucune sorte, tout à fait en vertu de principes a priori, et qu'on pourrait nommer une volonté pure, mais le vouloir en général, avec toutes les actions et conditions qui, dans ce sens général, lui appartiennent. Elle se distingue donc d'une métaphysique des mœurs de la même façon que la logique générale se distingue de la philosophie transcendantale. La logique générale, en effet, expose les opérations et les règles de la pensée en général, tandis que la philosophie transcendantale expose uniquement les opérations et les règles spéciales de la pensée pure, c'est-à-dire de la pensée par laquelle des objets sont connus complètement a priori. C'est que la métaphysique des mœurs doit examiner l'idée et les principes d'une volonté pure possible, non les actions et les conditions du vouloir humain en général, qui, pour la plus grande part, sont tirées de la psychologie. Le fait que dans la philosophie pratique générale, il est aussi question, bien à tort cependant, de loi morale et de devoir, ne constitue aucune objection à ce que j'affirme. En effet, restent encore fidèles en cela à l'idée qu'ils s'en font. Ils ne distinguent pas, parmi les principes de détermination, ceux qui, comme tels, sont représentés tout à fait a priori par la seule raison et sont proprement moraux, de ceux qui sont empiriques, en concepts généraux, par la simple comparaison des expériences. Ils les considèrent, au contraire, sans avoir égard à la différence de leurs origines, ne tenant compte que de leur nombre plus ou moins grand, car ils sont tous, à leurs yeux, de la même espèce. Et ils forment ainsi leur concept d'obligation. Ce concept, à la vérité, n'est rien moins que moral. Mais le caractère en est tout ce qu'on peut attendre qu'il soit dans une philosophie qui, sur l'origine de tous les concepts pratiques possibles, ne décide nullement s'ils produisent a priori ou simplement a posteriori. Or, dans l'intention où je suis, de publier un jour une métaphysique des mœurs, je la fais précéder de ce livre qui en pose les fondements. Sans doute, il n'y a, à la rigueur, pour pouvoir la fonder, que la critique d'une raison pure pratique. Comme pour fonder la métaphysique, il faut la critique de la raison pure spéculative que j'ai déjà publiée. Mais d'une part, la première de ces critiques n'est pas d'une aussi extrême nécessité que la seconde. Parce qu'en matière morale, la raison humaine, même dans l'intelligence la plus commune, peut être aisément portée à un haut degré d'exactitude et de perfection, tandis que dans son usage théorique mais pur, elle est tout à fait dialectique. D'autre part, pour la critique d'une raison pure pratique, si elle doit être complète, je crois indispensable que l'on se mette à même de montrer en même temps l'unité de la raison pratique avec la raison spéculative dans un principe commun. Car, en fin de compte, il ne peut pourtant y avoir qu'une seule et même raison qui ne doit souffrir de distinction que dans ses applications. Or, je ne pourrais ici encore pousser mon travail à ce point d'achèvement sans introduire des considérations d'un tout autre ordre et sans embrouiller le lecteur. C'est pourquoi, au lieu du titre « Critique de la raison pure pratique », je me suis servi de « Fondement de la métaphysique des mœurs ». Et, comme aussi, en troisième lieu, une métaphysique des mœurs, malgré ce que le titre a d'effrayant, peut néanmoins à un haut degré être populaire et approprié à l'intelligence commune, je juge utile d'en détacher ce travail préliminaire où en sont posés les fondements, afin de n'avoir pas besoin dans la suite d'ajouter l'élément de subtilité inévitable en ces matières à des doctrines plus aisées à entendre. Quant à ces fondements que je présente au public, ils ne sont rien de plus que la recherche et l'établissement du principe suprême de la moralité, ce qui suffit à constituer une tâche complète dans son plan et qu'il y a lieu de séparer de toute autre recherche morale. Sans doute, mes assertions sur ce problème important, et qui jusqu'à présent n'a pas été encore, tant s'en faut, traité de façon satisfaisante, recevraient de l'application du principe à tout le système et de la puissance d'explication suffisante qu'il manifeste en grande confirmation. Mais j'ai dû renoncer à cet avantage, qui, au fond, eût été plus d'accord avec mon amour-propre qu'avec l'intérêt de tous. Car la facilité à s'appliquer un principe, ainsi que son apparente suffisance, ne fournissent pas de démonstration absolument sûre de son exactitude. Elle suscite plutôt un certain parti pris de ne pas l'examiner et l'apprécier en toute rigueur pour lui-même, sans égard aux conséquences. J'ai suivi dans cet écrit la méthode qui est à mon avis la plus convenable quand on veut procéder analytiquement de la connaissance commune à la détermination de ce qui en est le principe suprême, puis, par une marche inverse, redescendre synthétiquement de l'examen de ce principe et de ses sources à la connaissance commune où l'on en rencontre l'application. L'ouvrage se trouve donc ainsi divisé. Premièrement, première section. Passage de la connaissance rationnelle commune à la moralité de la connaissance philosophique. Deuxièmement, deuxième section. Passage de la philosophie morale populaire à la métaphysique des mœurs. Troisièmement, troisième section. Dernière démarche de la métaphysique des mœurs à la critique de la raison pure pratique.